Et quand l'usine aboie, le pays chasse.
10h30, à la salle des fêtes, projection Université le Grand Soir, un film de Thomas Lacoste dans le cadre des ateliers politiques. Film présenté par le réalisateur et Monique Chemier-Gendreau.
Alors, dans la panoplie des films que Thomas Lacoste nous offre pour réfléchir sur diverses questions, on a choisi celui sur l'université, parce que je pense qu'après la rétention de sûreté qu'on a vue avant-hier, qui est un problème majeur, la question de la crise de l'université et de la recherche dans notre pays, et peut-être en général, reste un autre problème capital. Alors, selon la même technique, on va voir le film aujourd'hui. Thomas va vous dire un petit mot des conditions dans lesquelles il l'a fait et ensuite. Et demain, on se retrouve pour ce qu'on appelle maintenant le débat rebond, après réflexion de la nuit sur ce qu'on va voir maintenant. Voilà.
Bien, merci d'être là. Ce petit vendredi pluvieux, c'est parfait pour les salles de cinéma, les salles obscures. Donc ce film, donc Université le Grand Soir, donc comme l'a dit Monique, effectivement, on traite d'un thème essentiel, on le verra demain, on a tous beaucoup de choses à dire, je pense, sur ces questions-là. Moi, en tant que citoyen, enfin moi et vous, j'imagine, Monique en tant que praticien, et demain, de l'Université de la Recherche, et demain, on aura Frédéric Néra avec nous, qui est sociologue, qui est donc lui aussi professeur, maître de conférence à l'université, donc enseignant-chercheur, et par ailleurs, est spécialiste de ces questions d'éducation, donc il aura lui aussi, à n'en pas douter, beaucoup de choses à nous dire. Donc l'enseignement supérieur et la recherche, effectivement, thème central aujourd'hui. L'enjeu, comme l'a dit Monique, c'est la connaissance, c'est ni plus ni moins que la dynamique de nos démocraties. Donc ce film s'imposait très rapidement à nous, surtout quand on a vu venir après les élections Mme Pécresse et sa cohorte de textes. Donc le film a été fait en deux temps. Il y a eu un premier court-métrage qui a été diffusé, qui est toujours d'ailleurs visionnable sur Internet, qui s'appelait Université en danger, qu'on a fait très rapidement, mais à la publication, juste avant la publication des textes, parce que vu la misère des commandes, du non-débat dans nos médias français, on a décidé donc avec nos amis de Souvent la Recherche, Paris, de faire très rapidement donc un court film qui essayait au moins de poser les enjeux du débat qui n'a pas eu lieu en France, puisque faut rappeler que ce texte est passé en juillet dernier. Et par contre, en se disant, voilà, on va essayer de prendre le mois d'août, ça c'était en juillet, on va essayer de prendre le mois d'août autour d'ailleurs pendant le festival, pour essayer de s'attaquer à un plus long film pédagogique sur ces questions-là. Alors, je dis pédagogique, et vous allez voir pourquoi, par rapport à ce que vous avez pu voir il y a deux jours. Le film que vous avez vu il y a deux jours donc, était peut-être d'une approche plus aisée. Là, on sait qu'on essaye de traiter de beaucoup de thèmes, donc il faut s'accrocher un peu. Il y a des chiffres, des stats, beaucoup de sociologie, voilà. Mais parce que le thème, qui sont deux, l'enseignement supérieur et la recherche, est très vaste, et donc il nous a semblé important d'essayer de... non pas de répondre à ce qu'il faudrait faire pour l'université, mais au moins d'essayer de poser au grand public l'ensemble des enjeux une partie des enjeux qui sont convoqués autour de ces deux piliers de notre démocratie. Voilà, alors donc pour la petite histoire, comme vous le savez, après quand il y a eu... peu de mobilisation chez les professeurs, à mon goût, trop peu de mobilisation chez les professeurs à l'automne dernier, mais par contre une grosse mobilisation de la part des étudiants. Donc ce film a eu, arrivé à point nommé, donc il a été très usité dans les différentes facs françaises et même à l'étranger. Il y a eu un colloque à Berlin, il a été vu en Italie aussi. Il y a un projet d'ailleurs de film, de même genre de film, mais sur, pour enfin, penser une recherche européenne, enfin, à l'échelle européenne, voilà, qui est en cours. Vous allez voir quand même un film, vous avez le privilège de voir un film censuré par la Sorbonne. Monsieur Jean-Robert Pitt, le président de Paris 4, a eu le bon goût de refuser, alors que ses services administratifs avaient accepté à ses étudiants donc, de donner un amphithéâtre au mois de novembre dernier, donc au moment où dans les universités, bon, c'était en crise, il y avait des débats. Donc l'administration avait donc accordé un amphi conséquent pour les étudiants de la Sorbonne et son président a refusé donc une première fois la projection. Donc les enseignants-chercheurs de la Sorbonne ont fait une demande un peu plus officielle pour que ce film soit projeté, demande qui a été refusée. Et donc, fort de ces deux doubles refus, donc refus donc de la demande des étudiants, puis des professeurs, des enseignants, chercheurs, ces deux corps, enseignants et enseignés, se sont dit, on projette quand même notre amphi qui était réservé puisqu'il n'y a pas de cours à cet endroit-là. Et Monsieur Jean-Robert Pitt a eu la très bonne idée de faire couper purement et simplement l'électricité de la Sorbonne pendant une demi-journée. Pour s'opposer donc, jusqu'au bout à la projection de ce film. Ce qui lui a valu, trois jours après, le prix du ciseau d'or, et donc qui a été remis en grande pompe par nos amis de Sauvons la Recherche, avec une manif à la clé, musclée d'ailleurs, très musclée devant la Sorbonne. Et surtout, donc, on a SLR et un autre groupe bourdieusien de réflexion, donc j'ai pas le nom en tête de l'association, enfin, c'est un groupe de réflexion autour de l'enseignement supérieur, ont lancé une pétition internationale qui a été entre autres signée par Madame Forrest, qui est la présidente de Harvard, et qui a mené avec elle un peu plus de 1000 ou 1500 professeurs des quatre coins du monde, qui sont venus appuyer cette demande.
La table ronde des industriels européens, cette espèce de d'association des patrons des plus grandes, des 40 ou 50 plus grandes entreprises européennes, qui se réunissent régulièrement à Bruxelles et qui cogitent les réformes à venir, qui pensent un petit peu toutes les innovations qu'ils souhaiteraient voir, ont rédigé un rapport sur l'enseignement supérieur. Et ce rapport dit que les enseignants ont une compréhension insuffisante de l'environnement économique, des affaires, de la notion de profit, qu'il faut mettre en forme les esprits des étudiants pour qu'ils comprennent ce qu'est l'économie, qu'ils adhèrent aux objectifs de l'économie, sous-entendu de l'économie de profit, bien entendu, l'économie capitaliste. Ils annoncent un deuxième objectif dans leur rapport de 89, c'est que l'enseignement supérieur doit être pensé comme un prestataire de services éducatifs. Donc, et que sur ce marché, après tout, pourraient se développer des entreprises qui seraient des concepteurs et des négociants de logiciels, de CD-ROM, de savoir, en quelque sorte. On pourrait même transformer le savoir en entreprise qui produirait du profit. Non seulement l'université pourrait devenir, les établissements pourraient devenir des prestataires de services, mais il pourrait y avoir aussi des entreprises qui se créeraient à côté des universités, en quelque sorte, et qui produiraient des produits de connaissances qui seraient diffusés sur le marché de l'éducation, en quelque sorte. Et puis, il y a un troisième objectif, c'est optimiser, le disent aussi, rationaliser l'enseignement supérieur, où il y aura toujours, en effet, des investissements d'État pour réduire les dépenses d'État et, ce faisant, réduire les impôts des entreprises. Donc là, dès 89, il l'énonce explicitement. C'est repris immédiatement par la Commission européenne, qui va dire qu'il faut rendre les universités compétitives, qu'on a bien affaire à des prestataires et qu'il serait souhaitable qu'il y ait une concurrence entre les prestataires. Donc ça devienne un marché de prestataires, que se permettra une ouverture sur les réalités économiques, toujours l'objectif de fabriquer un savoir-être, en quelque sorte, qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, c'est repris immédiatement après par la Banque mondiale, par l'OCDE, par l'UNESCO, par l'OCDE largement, qui multiplie les rapports sur les transformations d'enseignement supérieur. En 98, en 99, en 2000, l'OCDE multiplie les rapports en disant qu'il faut que les universités apprennent. Alors on a bien le langage du marché, à démarcher des contrats, à prospecter les marchés. Il faut qu'il y ait un entrepreneuriat universitaire, que les directeurs de formation doctorale qui forment au DEA et au DESS doivent devenir des entrepreneurs. Un entrepreneuriat universitaire, il faut manager les compétences, etc. Et il y a une critique alors radicale des universités qui est faite à ce moment-là, qui sont peu flexibles, peu efficaces, trop lentes à s'adapter au changement. Pourquoi ? Alors là, le pourquoi est particulièrement intéressant, parce qu'elles ont des directions collégiales, parce qu'elles pratiquent un système électif, et qu'elles passent leur temps à rechercher le consensus, donc on passe du temps palabré dans les conseils d'administration, etc. Et qu'il faut abandonner tout cela. Et pourquoi ? Pourquoi ce système électif ? Pourquoi ce système collégial ? Pourquoi cette recherche de consensus ? Parce que l'université s'appuie sur, cherche à mettre en œuvre, en quelque sorte, des valeurs universalistes. Et l'OCDE dit clairement qu'il faut mettre en cause ce système. Donc abandonner cette recherche de valeurs universalistes, abandonner effectivement ce système collégial pour en venir à des systèmes autonomes mais efficaces. Donc une gouvernance d'entreprise efficace, université par université, laboratoire par laboratoire dans la recherche, une gouvernance autonome, efficace, qui développe des stratégies, avec des comités d'orientation qui l'aident à déterminer ces stratégies, pour être présente sur le marché comme prestataire du service éducatif. À terme, si on développe cette logique jusqu'au bout, en passant de l'autonomie, on devrait passer à une déréglementation, à une dérégulation, quelque chose comme ça, pour aller vers des prestataires de services éducatifs en concurrence les uns avec les autres. Donc vers une sorte de marché.
Pour convaincre de la nécessité impérative de cette dérégulation, il fallait un diagnostic indiscutable du retard des universités françaises à l'égard de leurs homologues étrangères. Deux chercheurs de l'Université de Shanghai ont proposé en 2003 un classement qui compare les universités mondiales entre elles, qui a opportunément offert une objectivation à la prétendue crise structurelle de l'université française. Bien que très souvent évoquée par les médias, peu de gens connaissent en détail la construction de ce mystérieux classement.
Ou avec les régions, en termes aussi de possibilités d'attirer des ressources. Donc c'est évidemment une autonomie qui va accroître les inégalités à l'intérieur des universités. Alors, on pourrait dire que normalement un président devrait être le représentant de tous, mais étant donné la faiblesse du nombre de membres du conseil d'administration, il est probable que ça ne sera pas le cas.
Parmi ces nouveaux pouvoirs confiés au président, il y a celui essentiel d'intervenir sur le recrutement et la rémunération des enseignants. La loi qui vient d'être votée remet en question le principe internationalement reconnu de recrutement collégial par les pairs, qui permet d'évaluer la qualité des dossiers principalement sur des critères scientifiques. Elle ouvre ainsi la voie aux pires dérives clientélistes.
Je reste persuadé que les structures qui existaient ont une capacité à être efficaces, et qu'elles vont perdre de cette efficacité dans la mesure où on sait ce qui existait, on ne sait pas ce qui va exister en quelque sorte. Ou je pourrais le dire autrement aussi. L'université est sans doute le seul système qui était capable de bien faire ce qu'elle avait à faire en quelque sorte. C'est-à-dire de former, de diffuser un savoir de haut niveau aux étudiants, tant bien que mal bien entendu, mais diffuser ce savoir, être capable de développer l'esprit critique, être capable effectivement de développer toute une créativité avec des moyens très faibles. C'est risqué de détruire la chose que l'université sait bien faire.
De droite comme de gauche, les gouvernements successifs ont méticuleusement préparé la mise en pièces du système universitaire français. Ils ont demandé aux universités de prendre en charge une augmentation colossale du nombre d'étudiants sans lui en donner les moyens. Ils ont imputé à l'université la responsabilité d'une augmentation du chômage à laquelle elle n'est évidemment pour rien. Aujourd'hui, les universités sont exsangues et les conditions de travail offertes aux étudiants et au personnel sont simplement scandaleuses. La situation est mûre pour que le gouvernement démantèle un modèle universitaire sciemment asphyxié et à terme engage la privatisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. À quoi ressembleront alors les universités de demain? à des organismes de placement chargés de trier les étudiants des classes moyennes, de leur distribuer des stages non rémunérés et d'optimiser leur employabilité, à des PME en concurrence sous-traitant les commandes des administrations locales ou des entreprises privées, à des gestionnaires à courte vue de laboratoires qui financeront sur fonds publics la recherche et le développement du secteur privé et organiseront précarité, clientélisme et conformisme. Des propositions existent, défendues notamment par Sauvons la Recherche, pour une autre réforme de l'université. Rien ne justifie que soit abandonnée toute ambition de démocratisation scolaire et que soient reniés les principes d'autonomie scientifique et intellectuelle, résultat de combats politiques de plusieurs décennies. Pour sauver l'université et la recherche, mobilisons-nous.
Donc, comme vous voyez, il y a du boulot. Quelques thèmes ont été donc esquissés. On vous laisse donc sur le même principe des dorénavant classiques ateliers politiques du ZEST réfléchir pendant la journée. On se retrouve demain donc pour débattre donc avec Monique Mégendreau et Frédéric Nérac. On a vu en avant-dernière position là, parler des stages, donc qui sera là. On espère que voilà, le débat sera riche. En tout cas, vous avez vu entreaperçu en tout, les enjeux qui se cachent derrière. Cette question épineuse de la privatisation, je vais amorcer le débat, de l'université et de la recherche. Je vous rappelle que l'ensemble de ces documents sont libre accès sur Internet, sont en vente sur DVD ici même, qu'on vous invite tous à vous saisir de ces supports pour le diffuser dans vos familles, auprès de vos amis, de vos entreprises, de vos écoles, de vos élus. Voilà, donc n'hésitez pas, on se déplace, que ce soit bien sûr SLR, les gens de la réserve, donc voilà, c'était l'association que je cherchais tout à l'heure, les Bourdieusiens, dont fait partie Frédéric Nérac. Nous-mêmes, on peut accompagner aussi le film pour des projections publiques. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ces documents si vous les jugez utiles. Merci, à demain, 10h, 10h30.
Samedi 23 août, à 10h, sous les platanes, les ateliers politiques. Débat rebond conduit par Monique Chemier-Gendreau à partir du film de Thomas Lacoste, Université, le grand soir, en présence du réalisateur et de Frédéric Nérac, sociologue.